Bien sûr, avec Aude à la technique, comme très 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 souvent. Vous avez commis un livre, oui. Je suis Roger Vaillant, Christian Petre, aux éditions.
Aux éditions Jacques André.
D'accord. C'est une démarche bizarre, ça. Je suis Roger Vaillant.
Mais c'est une démarche qui prend place dans une collection. Hein. C'est une collection qui est initiée Jacques André, et qui est une collection pédagogique, à vocation pédagogique, hein, d'essayer de retracer les itinéraires d'un certain nombre d'écrivains, d'artistes, sous la forme d'une biographie écrite au jeu. Qui m'a proposé je suis Roger Vaillant. N'étant pas Roger Vaillant, j'ai accepté avec plaisir d'être cet autre qui est proche et loin de moi.
C'est un drôle de jeu d'ailleurs.
D'accord. C'est un drôle d'accord. de jeu.
Alors, donc, moi j'ai eu une drôle de surprise, on se le disait hors antenne, là. Donc je vous ai annoncé depuis quelques temps, là. Et puis j'ai eu des gens, alors je disais, bon, bah, je vais faire une émission avec Christian Petre sur Roger Vaillant. Silence. Il y a eu un silence, pourtant j'ai eu l'édition Attila, il y avait pas mal quelques personnes là. Et heureusement, j'ai trouvé la semaine dernière, j'ai fait une émission sur avec Jean-Yves Mollier qui a écrit une autre histoire de l'édition française. Et je lui dis, il est en face de moi comme vous là, je lui dis alors bon, Roger Vaillant. Et aussi ça qui s'est, hop, il est parti, il me dit oui, c'est trop. Alors c'était très bien, comme introduction c'est très bien. Il me dit c'est 325 000 francs et je lui réponds, pourquoi vous avez retenu que ça, comme ça gentiment. Il me dit oui parce que c'est l'histoire du, c'est un dandy qui, chose rare, met un ouvrier dans une histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
En tout cas, ce que disait Vaillant à la fin de sa vie, donc quelques jours avant, il disait le 325 francs, le meilleur de mes romans. Il venait de tout écrire, hein, il avait tout relu et il le considérait comme le meilleur de ce roman. Donc se souvenir de ce roman, c'est pas faire injustice à Vaillant. Maintenant, Vaillant, c'est pas qu'un roman, bien entendu, c'est une œuvre complète, hein, c'est une œuvre et complexe aussi, qui s'étale dans le temps, hein, qui est quand même presque plus de la moitié du XXe siècle.
Qui commence donc, Drôle de jeu, c'est 45.
Drôle de jeu, c'est 45. Oui, c'est son entrée dans le roman.
D'accord.
Mais disons que son entrée en littérature, elle se fait bien avant, elle se fait dès l'âge de 16 ans. Donc c'est un jeune homme bien précoce. C'est un romancier tardif, mais un jeune homme précoce.
Le 12, nous allons recevoir Hervé Delabarre. Hervé Delabarre est un poète qui a été un des derniers, disons, jeunes contemporains d'André Breton. Et là, nous allons avoir une conversation sérieuse, mais qui concerne notre sujet d'aujourd'hui. Hein. Il y a une tendance des gens autour du surréalisme aujourd'hui, c'est-à-dire de gommer toute la partie politique du surréalisme pour n'en faire qu'un exercice spirituel.
Bien sûr, on a toujours intérêt à séparer la révolte de la révolution.
Bon,
ça, c'est une opération bien connue, qui a bien marché, hein, d'ailleurs.
Oui.
On a désamorcé un petit peu le surréalisme, oui, je crois. Oui.
Est-ce qu'on n'est pas au cœur même du Vaillant aussi?
Ah, probablement, parce que s'il y a bien quelque chose qui soucie Vaillant, c'est de maintenir le lien. Alors, évidemment, contre Vendémarre, et Dieu sait que la période était troublée, mais de maintenir le lien entre une avant-garde artistique littéraire et une avant-garde politique, je crois que c'est un souci permanent chez lui, qu'il ne l'aura jamais abandonné. De ce point de vue-là, c'est un homme de fidélité.
Donc on en est, si j'ai bien compris, bien calculé, au 50e anniversaire de sa mort, c'est ça?
Oui, c'est ça, voilà, ça fait 50 ans, oui, 65.
65, ouais. Donc vous avez lancé une invitation, si j'ai compris, à Bourg-en-Bresse.
Oui, bah vous savez comment ça fonctionne. En France, on aime bien et on prend parti. On essaie d'utiliser tous ces anniversaires. Donc on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi Bourg-en-Bresse? Parce que Vaillant s'était installé durant la résistance, puis après la résistance durablement dans la région, hein, dans un petit village près de Bourg. Donc il y a une association littéraire qui s'est formée autour de l'œuvre de Vaillant. Elle a son adresse à Bourg-en-Bresse, à la médiathèque Élisabeth et Roger Vaillant, puisque c'est là qu'Élisabeth avait déposé tous les manuscrits de Vaillant. Donc oui, cette année en novembre, troisième week-end de novembre, il va y avoir des réunions, des films, des débats autour de Vaillant.
Et chaque année, il y a un thème, si j'ai bien compris.
Oui, ça fait maintenant, depuis 1995, donc ça fait pas mal d'années qu'il y a des rencontres annuelles autour de l'œuvre de Vaillant.
Et le thème cette année?
Ben, cette année, il y aura plusieurs choses, parce que c'est aussi, ça coïncide avec l'anniversaire, c'est le 10e anniversaire de Drôle de Jeu. Donc il y aura une journée qui sera consacrée à un Drôle de Jeu. Mais le thème général d'une rencontre qui va réunir des lecteurs, des écrivains, des universitaires, ce sera vraiment de se demander si aujourd'hui ça vaut la peine ou non de lire Roger Vaillant.
Alors moi je voulais en arriver là, il y avait un petit comme ça. Je pense que l'invitation a été lancée avant ce tournant que la politique internationale vient de prendre depuis 3-4 mois. Yann,
oui, vous êtes d'accord avec moi,
bien avant. Donc il y a une accélération totale, que ça vienne du sud comme de l'est. Là, oui. On se disait hors antenne qu'humour noir oblige. On a même proposé de mettre des réfugiés, on appelle ça comme on veut, des migrants, n'importe quoi, je me fous du terme, à Dachau.
À Dachau, oui, c'est ce qu'on se disait, et que ce n'était pas une plaisanterie, c'était un fait. Oui, et un fait, semble-t-il, pour le moment, assez bien admis, oui.
Et donc, la conscience du politique de Vaillant, est-ce que par rapport aux gens qui nous entourent, aux gens qui sont officiels, aux gens qui prennent la parole actuellement, on a un drôle de cinéma. Si on prend les ouvertement réactionnaires comme Zemmour, ça on n'en parle pas. Mais si on va sur un Michel Onfray,
oui,
on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Je pense que Vaillant peut être une référence utile, par l'exigence qu'il a eue, par la lucidité qu'il a cherché. Alors même s'il s'est trompé par moments, c'est pas la question. Par cette exigence de lucidité, par cette volonté d'être à l'écart des apparences le plus possible, en tout cas d'essayer de maintenir ce cap, et par aussi l'ambition qu'il avait en tant qu'homme. Je crois que Vaillant peut être vraiment une référence utile aujourd'hui. Si, il me semble qu'on est vraiment dans un imaginaire d'une pauvreté énorme et dans laquelle on est tous aliénés. S'il y a bien une façon de s'en sortir, il n'y a pas qu'avec Vaillant, bien entendu. Mais je pense que c'est un bon levier. Donc autant s'y référer puisqu'on l'a à disposition.
Est-ce qu'on aurait la même... vous avez fait un Roger Vaillant par rapport aux gens de gauche, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir la même attitude par rapport à Louis Aragon, par exemple?
Alors, c'est évidemment de tradition de les rassembler, de les opposer. Je pense que c'est des personnes qui ont vraiment une attitude très différente dans l'histoire. Aragon, c'est vraiment le prophète qui dit l'histoire. Vaillant, c'est pas du tout ça. Donc
Ils sont inconciliables ou pas? On va casser les morts, écoutez.
Ouais.
On va y aller.
Comme individu, de toute façon, Non, je pense que leurs œuvres ont bien des choses en commun.
Ils ne se supportent pas.
Les individus?
Oui.
Oui, je pense que ça a été quand même aussi deux alligators dans le même marigot. C'est deux grandes figures, malgré tout, du mouvement révolutionnaire de l'époque. Ils se sont connus très très jeunes. Et ils se sont très vite opposés, pas simplement pour des raisons de personne, pour des raisons relativement de fond. Donc il y a trace de ces oppositions. Et ensuite, ils apparaissent l'un et l'autre comme des figures de référence dans le mouvement révolutionnaire de cet après-guerre. Avec sur le point de vue, en tout cas du côté de l'éthique, des points de vue relativement différents dans un premier temps.
C'est-à-dire,
je pense que Vaillant est un homme vraiment, on le sait, mais c'est une parole qui revient souvent pour le qualifier, le libertin. C'est un homme d'une grande liberté et qui l'a revendiqué, qui, je crois, a eu le bonheur de la vivre. Je ne suis pas sûr qu'Aragon, sur le plan, en tout cas, et dans l'ordre du discours, ait eu ces positions-là pendant une certaine période de sa vie. Donc il y a des oppositions qui se sont faites entre les deux personnes. Ça s'est forcément pas très bien passé. Et Aragon avait le pouvoir entre les mains.
Voilà,
il ne l'a jamais recherché.
Est-ce qu'il n'y a pas une mainmise sur la pensée de gauche de la part d'Aragon au départ?
Je pense
après la guerre.
Puissance d'Aragon, évidemment, qui n'avait jamais eu celle de Vaillant, mais que Vaillant n'avait pas recherché non plus, oui.
On va casser le morceau Christian Petre, parce que moi j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu vas où? Je vais à Radio Libertaire, qu'est-ce que tu fais? Une émission sur Roger Vaillant ?» Et la phrase est arrivée, quoi, un stalinien sur Radio Libertaire. Alors, on y va ou pas?
Bien sûr qu'on y va.
Et après, on sera un petit bout de musique, et puis après, on va plonger dans Roger Vaillant. Alors, stalinien.
Ah oui, un vrai stalinien, oui. Mais ça ne servirait à rien, je crois, de penser hier avec des vues d'aujourd'hui. Être stalinien en 50, c'est pas être stalinien aujourd'hui, c'est pas exactement la même chose. C'est pas pour défendre Roger Vaillant sur ces questions-là, mais c'est juste pour le resituer dans l'histoire. Non, je crois que Vaillant a été un vrai stalinien, en ce sens que Staline représentait une espèce de figure abstraite. Il n'y a rien de pire que de s'identifier à une abstraction, mais c'est ce qu'il a fait, il l'a payé assez cher, lui et bien d'autres. C'est une figure abstraite, idéale, du révolutionnaire bolchevique, c'est-à-dire celui qui à la fois entend changer la vie et transformer le monde. C'est comme ça qu'il le voit. Donc son stalinisme, il est lié à une exigence majeure. Et après, il se trouve que Staline, c'est pas une abstraction. Staline, c'est un homme concret, engagé avec une politique concrète. Vaillant va réaliser à un moment donné qu'il a été joué dans cette affaire.
Mais le pire, c'est qu'il va jusqu'au bout, mais avec un côté extrêmement passionnel. On va dire le mot.
Oui, mais ça me dérange pas qu'il y ait de la passion dans l'histoire et dans l'engagement. Oui, bien sûr. Et ça conduit aussi aux erreurs. Mais je crois qu'il faut pas avoir peur des erreurs. Le pire, c'est de ne pas bouger.
Ouais. Est-ce que dans ce cas-là, on ne peut pas crier simplement à moi, papa Freud, dans le sens, est-ce que ce n'est pas une revanche du petit bourgeois de son enfance qui fait un paroxysme, justement, avec le petit père des peuples, le moustachu?
Non, je pense qu'on peut laisser Freud de côté. Je pense que ce qu'il y a chez Vaillant, c'est la certitude très tôt affirmée de la nécessité d'être un traître, c'est-à-dire de trahir sa classe d'origine. Ouais. Cette trahison, il l'a revendiquée, il en a fait une vraie valeur. Hein, chez lui, le traître est une figure positive, avec les risques et périls, évidemment, de la trahison mal jouée. Mais en tout état de cause, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait chercher. Et ça, il l'affirme très très tôt. Oui, très très tôt. Il dit qu'il faut se réjouir d'être un traître.
Donc avec votre je suis Roger Vaillant en endossant le costume, vous êtes un traître, un sale mec, c'est bien, un sale individu, non?
Oui, oui, mais les sales individus sont très utiles dans l'histoire.
Quand vous faites ça, quand vous mettez ce costume-là, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, vous dites je ne peux pas l'être?
Bien sûr, mais parce qu'on est, si je est un autre, il ne l'est jamais totalement, donc il y a toujours un écart, d'ailleurs j'espère qu'il y a un peu d'humour dans cet écart-là, sinon les choses deviennent d'une grande tristesse.
Vous savez, quand on parle, j'ai reçu Franck Delorieux, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Oui, bien sûr.
Et nous avons une discussion qui était assez stupéfiante d'ailleurs, en technique c'était pas autre, c'était Monique qui était là, assez stupéfiée par le phénomène là. Franck Delorieux a quasiment défendu Staline en direct comme ça, et à un moment donné il cite une phrase de, excusez-moi Aude, il cite une phrase de Vaillant, alors je sais pas où il l'a eu, où Vaillant dit que Staline avait une grosse bite.
Oui, et il précise, parce que voilà. Cette phrase, on l'a... Alors, Delorieux l'aime bien, Franck l'aime bien, cette phrase. Alors. Et on l'a rappelé. Oui, oui, et il devait s'en servir.
Voilà, il devait bien s'en servir, voilà.
Il devait bien s'en servir. Oui, mais ça, je crois que ça correspond aussi, alors là, vraiment à une des préoccupations les plus importantes de Vaillant, c'est-à-dire de ne pas séparer, c'est pour ça que ça prend cette forme, malgré tout, pleine d'humour, de ne pas séparer l'engagement politique, la libération collective de la libération individuelle. Or, pour lui, on a deux manières d'être enfermé. On est enfermé dans sa peau et la seule manière d'en sortir, c'est l'érotisme. D'où l'histoire de la grosse bite et de savoir s'en servir. Et on se libère de la pression collective par le combat politique. D'où Staline, pour le moment, à ce moment-là de l'histoire. Oui, donc il y a une forte cohérence par rapport à, dans cette formule humoristique qu'on évidemment qu'on recite, parce qu'après tout, elle n'est pas si mal.
Oui, c'est très drôle. C'est très drôle. On écoute un petit brin de musique et puis on plonge dans Vaillant.
Allez.
La fillette au menton fier releva les pans de sa robe et s'assit sur mon soleil, le buste droit. Le chocolat fondit dans sa poche, son buste resta droit. Mais ses petits seins descendirent d'un degré d'angle. Oui, c'est alors que le rouge lui monta aux fesses et qu'elle vit jaune. Elle remonta ses genoux à son cou. Elle remonta ses genoux à son cou. Oh, 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 c'est fou, oh, c'est fou comme ce soir. J'ai le cœur confiseur. Mmh. pastillait au menton fier, releva les pans de sa robe et s'assit sur mon soleil, le buste droit. Le chocolat lui coula sur le ventre, éclipse partielle. La fillette au menton fier renversa la tête en arrière, et le chocolat lui coula dans la bouche en passant par ses petits seins qui remontèrent d'un degré d'onde. Les petits frissons qui les murent à fleur de peau sentaient
au 01 43 111 89 40, et bah, sur Radio Libertaire, toujours avec Christian Petre et Roger Vaillant. Cher saint, c'est quoi ? Une petite parenthèse avant Vaillant. Cher
saint. Voilà, c'est un texte écrit il y a bien longtemps, en hommage aux saints.
Ouais, c'est bien, les saints, S-E-I-N-S. Hein,
Oui, bien entendu.
D'accord.
Oui, seul le compte.
C'est trouvable, ça, c'est un roman. C'est quoi, c'est un roman, un essai ?
Non, c'est un récit enchaînant des aphorismes.
C'est une apologie de la poitrine.
Disons-le comme ça.
D'accord. Mmh. Vous savez, il y a l'espagnol quand
même. Oui, bien sûr. De la Serne. Je marche pas sur ses traces, parce que c'est un très beau livre. Mais à l'écart de ses traces, avec grand bonheur.
C'est quoi son prénom, de la Serne ?
Ramon, non ?
Ramon, oui, c'est Ramon, ça, de la Serne. Et vous avez aussi écrit un livre sur le Chevalier de la Barre.
Oui, ça, c'est une figure qui m'est très proche depuis très très longtemps. Je suis né au pied de la butte Montmartre. Gamin, je montais cette rue du Chevalier de la Barre, comme ça. Et puis j'arrivais à un socle vide, comme ça, de statue. Donc ça a vraiment marqué. Et puis mon adolescence. Et ensuite, je me suis attaché à la figure du chevalier lui-même. Donc c'est presque comme un vieux copain.
C'est l'iconoclaste parfait.
Oui.
Ce qu'il a fait.
Vous
pouvez rappeler rapidement ce qu'il a fait là.
Oui. Alors ce qu'il a fait. On n'arrive pas trop à savoir ce qu'il a fait. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que c'était lui aussi un homme d'une grande liberté. C'était un tout jeune homme. Hein. Il avait perdu sa mère, son père. Il était un noble désargenté. Il a été recueilli à Abbeville par sa marraine, qui était une abbesse. On peut se laisser dire qu'elle était belle. Et peut-être pas si farouche que cela. Mmh. Donc elle l'a recueilli, et puis ce jeune homme a vécu la vie d'un jeune homme de 20 ans qui aspire au plaisir. Ça n'a pas plu vraiment aux autorités de la ville. Et c'était un garçon qui était très, très, très à l'écart des problèmes de Dieu. Alors on lui prête des choses, les a-t-il fait, les a-t-il pas fait?
Il a 22 ans, c'est ça?
Oui, il a 21 ans.
21 ans, c'est ça, oui.
Il a sans doute blasphémé, il a sans doute uriné sur des hosties. Enfin, il a certainement fait des choses comme ça, chanté des chansons, il comparait la Vierge à une putain, des choses comme ça. Mais bon, ça c'était les bruits qui couraient, on n'a pas de trace de ça. Et un jour, croisant une procession, il ne s'est pas découvert. Donc tout ça faisait beaucoup, d'autant qu'à la même date, il y avait un crucifix qui a été blessé par couteau. Et là, c'était pas du bois, c'était vraiment la chair du Christ. On l'a accusé, lui, c'est son copain qui a fait ça. Mais peu importe, il a subi un procès. Ce procès a conduit à une condamnation à mort, c'est-à-dire avoir la langue coupée, la tête décapée, coupée, et puis le corps brûlé, avec le dictionnaire de Voltaire, le dictionnaire philosophique de Voltaire. Ouais, ils ont fait appel à Paris, Paris a confirmé. Donc ça, c'était en 1766. Ouais, je me devais de...
D'accord, et Voltaire, ouais. Il y a le fameux pamphlet de Voltaire.
Oui, il y a le pamphlet de Voltaire là-dessus. Mais Voltaire le traite de grand enfant, je crois que c'est plus... Mmh. Ouais, je crois que c'est bien plus grave pour la barre. Était, finalement, c'était certainement un enfant qui avait le souci des jeunes et belles femmes et du vin et de la vie. Mais je pense qu'il a dérangé pour autre chose que des gamineries. Oui. Je pense qu'il remettait en cause une société totalitaire. Voilà, c'est ça surtout pour...
Quand on essaye, en l'espace d'un livre, de revêtir la défroque de Roger Vaillant, il y a quand même des impératifs à respecter. C'est-à-dire qu'au moins être matérialiste et athée.
Oui.
Non ?
Oui. Ça allait de soi, j'allais dire. Donc ça, c'est pas... ça ne posait pas le moindre problème. Non, je pense qu'il y avait un autre impératif, tout aussi exigeant d'ailleurs. Hein. C'était celui, malgré tout, parce qu'être un écrivain, c'est d'abord jouer avec les mots et savoir faire avec. Donc c'était celui de ne pas être trop indigne de l'écriture de Vaillant. C'est surtout ça qui m'a fait hésiter à accepter d'écrire un Je suis Vaillant. Parce que je crois aussi que Vaillant, c'est un écrivain. C'est un type qui sait faire avec la langue, quoi. Ouais. Et qui sait quoi faire avec la langue. Donc ça, c'était peut-être le plus difficile. Matérialiste, athée, oui, ça, c'était pas difficile.
Mais lorsqu'on prend Roger Vaillant, ça se passe... Alors, peut-être pas, hein, je ne sais rien. Au-delà de la littérature, c'est au-delà de la littérature.
Oui, Vaillant, c'est un type dont on peut pas... C'est une œuvre dramatique à lui tout seul, Vaillant. On peut guère séparer... je crois pas qu'on puisse séparer son œuvre de sa vie. D'abord parce qu'il a eu tendance et assez lucidement à faire de sa vie une œuvre. Et par ailleurs, son œuvre, il l'a jamais fait à l'écart de sa vie. Donc il y a une interaction continuelle. Donc oui, c'est la vie, c'est une vie, une œuvre vie, oui, incontestablement. C'est un très beau personnage de roman.
Oui, c'est un cabot.
Ah oui.
C'est un cabot du début jusqu'à la fin. Oui. Non, mais quand je dis matérialiste et athée, c'est tout. On va revenir à tout ce qui se passe aujourd'hui là. C'est-à-dire que je vous lirai 3-4 lignes de Vaillant là sur le sacré. C'est-à-dire, le seul personnage qui vraiment boute le sacré, c'est Vaillant. Il va très loin, si on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, le retour du catholicisme, papa et maman, si on voit l'islam, si on voit toutes les valeurs qui reviennent avec le mot sacré qui nous sacre depuis je sais pas combien de temps, là. On aurait peut-être besoin de gens qui, effectivement, se déclarent vraiment de l'autre côté du sacré, quoi, aux antipodes du sacré.
Oui, Vaillant, c'est une pensée rigoureuse, donc on a toujours besoin d'une pensée rigoureuse. Et notamment sur ces questions-là, bien entendu.
En particulier, c'est ce qu'il va reprocher dans cet essai, le surréalisme contre la Révolution. Vous l'avez en tête un petit peu ?
Oui, je ne l'ai pas relu depuis longtemps, mais bien sûr que je l'ai un peu en tête.
Donc, ce qu'il reproche je cherche désespérément voilà, je l'ai trouvé.
Très bien.
Je vous remercie, c'était pas facile à faire. ce qu'il reproche au surréalisme, justement, c'est d'avoir porté les choses à l'état de sacré.
Oui, il faut voir que Vaillant, il fait partie de l'histoire du surréalisme. C'est pas quelqu'un qui intervient de l'extérieur. Ça peut-être qu'il faut le rappeler quand même.
Un tout petit peu.
Oui, peut-être que c'est nécessaire.
Vous y allez là.
Alors j'y vais, mais on le fait ensemble.
On le fait ensemble. Allez, je vous propose une ville au hasard. Reims. Allez. D'accord.
Reims, par exemple. Alors, voilà, c'est une ville complètement détruite quand Vaillant il y a quelques années. Et c'est là qu'il va avec quelques gamins de sa classe, ils ont 16 ans, hein, mais ils vont devenir bien célèbres dans l'histoire. Roger Gilbert Lecomte, René Daumal, qui sont parmi, je crois, les meilleurs des poètes français de l'avant-guerre, les plus exigeants aussi. Hein. Donc oui, ces jeunes garçons vont former un groupe, pas vraiment un groupe littéraire, mais un mouvement, hein, qui va souder des pratiques de la drogue, pratiques de l'alcool, pratiques de l'érotisme, pratiques de dépersonnalisation de soi, pour vraiment sortir l'homme de ce règne humain dans lequel il se trouve. Ils ont une aspiration de toute grande envergure. Mais ce sont des provinciaux. Oui, aujourd'hui, on tape sur un écran plat, on est en lien avec toute la planète. Non, là, Reims, entre Reims et Paris, ça fait quelques distances. Hein, il faut prendre un train. Et quand ils vont venir à Paris, après avoir réussi brillamment les études, parce que comme souvent, comme Rimbaud, c'était des bons élèves.
Reims et Charleville, c'est quand même pas loin. Hein.
C'est pas loin. Hein. Et c'est Rimbaud leur référence. Ils connaissent admirablement l'Autrémont, mais c'est quand même beaucoup plus Rimbaud. Hein. Vaillant dit très bien, il faut reprendre le travail là où Arthur l'a laissé. Donc, c'est plutôt lui. Et c'est pas loin, en effet. Hein. C'est pas loin. Et quand ils viennent à Paris, ils vont découvrir qu'il y a d'autres jeunes qui sont sur le même chantier, en quelque sorte. Mais c'est des jeunes un tout petit peu plus âgés que eux.
C'est ça.
Ah, ouais, ça fait une différence sensible. Donc ils vont découvrir Aragon, ils vont découvrir Breton et quelques autres, c'est surtout Aragon et Breton, avec lesquels ils vont entrer en relation, en se disant, oui, après tout, on pourrait avoir des discussions entre les deux groupes. Et Breton n'est pas opposé, sauf qu'ils sont insolents, ces jeunes-là. Et Daumal va même jusqu'à dire à André Breton, dans une lettre, c'est très bien ce que vous faites, vous êtes encore bien loin de nous, donc venez à nous, on va vous aider un petit peu à accélérer sur ce chemin. Et puis il lui dit, la formule est assez cocasse, il lui dit, vous méfiez-vous, André Breton, vous allez finir dans l'histoire de la littérature.
Vous connaissez la réponse. La réponse, nous, c'est que maintenant... Non, mais attendez, vous connaissez la réponse. C'est que Daumal est au programme de la...
Eh bien, bien sûr, exactement. Alors que Daumal dit, nous, donc le grand jeu, Vaillant, nous, on aspire à terminer dans l'histoire des cataclysmes. Sauf qu'ils sont au programme aujourd'hui. Ils ont été rattrapés par la littérature. Ouais. Ben oui. Mais il n'en reste pas moins, donc c'est une vieille histoire entre eux, une vieille histoire. Et Vaillant, il est vrai aussi que dans ces groupes, dans ce groupe du Grand Jeu, était probablement le plus matérialiste des trois au départ. Hein, et ensuite, les choses se sont accélérées. Il s'est séparé du groupe sur des questions qui relèvent en effet de l'opposition entre matérialisme et idéalisme, pour aller vite. Mais c'est quand même ça l'essentiel.
Alors comme dans tous ces groupes-là, aussi bien ce qu'on appelle le surréalisme, le rapport entre Drieux et Aragon, il y a un rapport extrêmement, on va dire le mot sensuel,
il faut le dire aussi.
Le rapport entre Vaillant, Daumale et surtout le Comte est un rapport qui dépasse la littérature.
Oui, qui excède de loin la littérature. Oui. C'est aussi une affaire de corps.
Oui, alors,
on peut supposer en tout cas qu'il y avait une passion réelle entre Vaillant et Gilbert le Comte. Oui. Incontestablement. Mmh. Non, c'est un groupe qui a vécu aussi en forme d'un groupe pendant de nombreuses années.
Et ils vont, tous les trois, on va prendre ces trois-là, le Comte,
oui,
Daumale.
Parce que d'autres vont venir, mais...
Ils vont se balader toute leur vie avec ça, parce que le Comte va penser à ça jusqu'à sa mort, et Vaillant va régler son compte à le Comte jusqu'à
Vaillant
sa mort.
Vaillant sera survivant, parce qu'en fait, ouais. Le Comte va mourir jeune,
du tétanos,
c'était une piqure de je ne sais... Je sais plus ce qui s'était injecté.
Oui, c'était.
Et en début de la guerre, bon, de toute façon, il avait une consommation très 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 importante de drogue. Et Daumale, des suites des drogues absorbées d'une tuberculose qu'il ne pourra pas soigner. Donc c'est des gens qui meurent assez jeunes. Vaillant sera le seul survivant du groupe. Mais jusqu'à la fin de sa mort, il se référera, aura des cauchemars en pensant à Jean Bercon. On dira qu'il aura beaucoup de mal aussi à revenir sur ce Montparnasse où ils étaient tous les trois, qu'il ne peut pas y aller.
Il faut dire qu'il tire dur sur l'alcool, il tire dur sur la drogue, il tire dur sur tout, là. Hein.
Vaillant, oui, il était résistant, et sur les femmes.
Très résistant, et sur les femmes.
Donc c'est une forme quasi de suicide, mais résistance qui s'est installée dans le temps, en tout cas, c'est incontestable.
Il y a ça dedans, effectivement. Et donc, c'est le Grand Jeu, c'est quand même un des groupes déterminants de...
Oui, c'est le Grand Jeu, c'est un groupe, c'est une revue dont aujourd'hui on commence à découvrir un petit peu l'importance. Et puis bon, comme on l'a dit, l'institution s'y est intéressée, il y a eu des colloques, bon, maintenant ça y est, ils font partie de l'histoire littéraire. Hein, mais plus trop de l'histoire des cataclysmes, hélas. Mais oui, il y a ce Grand Jeu, il y a cette relation entre Breton, Aragon d'un côté, Vaillant, Daumale, le Comte de l'autre. Ça laisse des traces dans l'histoire individuelle.
Donc il va monter à Paris comme enfin il faut dire le mot comme un Rastignac. C'est quelqu'un qui est mégalo, qui veut être riche, qui veut réussir.
Oui, mais Breton aussi.
Oui,
c'est ça. Mais il veut être riche pour être tranquille. Mais Artaud aussi, donc ils veulent faire des affaires comme ça. Lui croit faire comme Rimbaud, en pouvoir en faire en Abyssinie, évidemment, tout ça, ça capote, oui, bien sûr. Donc la différence entre Breton et Aragon, c'est qu'Aragon Vaillant, c'est que Vaillant va se retirer de toute activité poétique, en tout cas sur le plan de l'écriture, très tôt. Hein, alors qu'Aragon, Breton, Daumale, le Comte vont continuer, lui va se retirer. Donc va travailler, je ne sais pas, des années 30 aux années 40, va travailler dans la presse, mais comme journaliste sous-employé.
Et donc,
c'est la grande différence entre eux. C'est que, alors que les autres continuent à avoir sur la place de Paris une activité qui les fait être identifiés, lui non. Lui, il est dans les bars, il est dans les bras des femmes, et l'alcool, la drogue.
L'aventurier, ce serait lui l'aventurier, beaucoup plus aventurier que...
Alors, en tout cas, lui a vécu au risque de sa peau.
Donc, Vaillant, cette fameuse rencontre, alors c'est là que vous allez maintenant prendre des risques, hein, je ne veux pas le savoir. Quand on est jeune, Roger Vaillant, on se débrouille. Il rencontre Breton, et là, Vaillant a écrit un article, ce fameux article... sur le préfet de police Chiap ou Kiap, comme
ça,
vous voulez.
C'est en plus des années 20, quoi. Oui, Kiap était un ignoble individu, c'était un des responsables.
Extrême droite.
Responsable de pas mal de... comment dirais-je, d'arrestation, d'ouvriers, de répression de manifestations. Bref, c'était le salaud par excellence. Et Vaillant a écrit un article, mais bien anodin.
Vous l'avez lu ou pas ?
Cet article ?
Oui. Moi aussi, je l'ai lu, donc il n'y a pas grand-chose.
C'est très anodin.
D'accord.
Mais je pense qu'on a... Donc, pour en revenir au fait, Vaillant et Aragon et Breton ont convoqué le Grand Jeu. Donc, Daumale, le Comte, Vaillant, puis d'autres. Hein. Et puis, on a accusé Vaillant en sortant à un moment donné, en disant, voilà le salaud... il se prétend un grand révolutionnaire et en fait, mais ça c'est presque rien. Je crois que c'est pas. Il me semble hein, qu'on a beaucoup grandi cette affaire. On sait aujourd'hui que on a dit après coup que Vaillant avait été obligé de quitter le grand jeu parce qu'il était frappé d'indignité, etc. Que ses copains l'avaient même pas défendu. Ça, je crois que la chose est bien. Non, je pense que la rupture avec les membres du grand jeu repose sur des différences autres. Ouais. Plus que sur ces.
Oui,
c'était habituel dans les membres, parmi les groupes, dans le groupe surréaliste de Saint-Victime.
Bah, vous croyez pas que la rupture, c'est simplement le côté matérialiste et athée de Vaillant?
Si, je crois, je pense. Moi, il me semble. Il y avait des gens qui venaient au grand jeu, comme un Roland de Renéville, qui sentait quand même bien bon l'idéalisme. Bien sûr. Et Vaillant commençait à être très réticent. Alors, il n'avait pas un matérialisme aussi formé qu'il l'aura après, mais il était très réticent à cette démarche. Ouais. Il y a une conception, il y a des idées profondes qui s'opposent, donc c'est pas une histoire simplement de cette petite. D'ailleurs, il a été défendu, hein. Des gens, y compris de par des très proches comme Roger Caillois, comme Raymond Dessène qui gagne sa vie, l'empoisonné, pas Desnos aussi l'a défendu. Donc je ne crois pas que c'était un si grave problème. Non, je pense que c'est des oppositions de fond. En fait.
N'empêche que c'est quand même une arête au fond du gosier, parce que Vaillant va promener ça toute sa vie. Hein.
Oui.
Parce qu'en 47, il va... Alors là, on va y revenir... Hein. Alors, je vais vous dire la vérité. Ce matin, c'est tombé de ma bibliothèque.
Oui,
j'en profite. Hein. Alors, Roger Vaillant, le surréalisme contre la révolution, c'est aux éditions complexes. Et effectivement, avec une mauvaise foi, il faut avouer, hein, il va tirer loin, il fait des. Vaillant va revenir sur Breton et essayer de lui régler son compte.
Oui. Hein? Que dire de cela? Que c'est indéfendable.
Alors, regardez, tout le progrès de l'homme, toute l'histoire des sciences et l'histoire de la lutte de la raison contre le sacré. On est en plein dedans, là.
Oui.
On est en plein dedans.
Mais on peut le suivre sur des formulations.
Ça, on le suit entièrement. Oui, alors, où ça commence à être dans le méchant. De même, quand André Breton préconise une interprétation hiéroglyphique du monde, c'est-à-dire nécessairement ésotérique, il est évident qu'il fait le jeu de ceux qui fondent sur le mépris des masses la légitimation d'une certaine élite. Que la race des seigneurs soit une race de prêtres, de mages, de guerriers ou de technocrates, elle amène toujours avec elle des camps de concentration. Bon, là...
C'est pour le moins rapide.
C'est pour le moins lapidaire. Et je vais encore plus lapidaire. Alors, il faut dire aussi que Breton a fait l'erreur. Sa première interview, quand il rentre des États-Unis, c'est pour le Figaro. C'était peut-être pas très, très habile politiquement.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Malgré tout. Non, c'est pas le noir Vaillant contre le blanc.
Non, il n'y a pas tout ça. Il y a des deux côtés. Oui. Et par contre, vous le dites dans votre livre, là, avec tout ça, c'est en 47, en 45, Vaillant fait un service de presse à Breton.
Oui. Et c'est un mot très gentil, hein, son rôle de jeu. Ouais. Alors, j'ai pas la dédicace en tête. Mais c'est une dédicace assez gentille. Il réaffirme le respect qu'il a pour toute l'œuvre de Breton. Il est vraisemblable que Breton ne lui a pas répondu.
L'autre, il ne répond pas.
Non, mais il y avait entre eux une animosité. Il y avait des humiliations et ça se règle de façon aussi malhonnête. Mais Vaillant n'avait pas peur d'une certaine malhonnêteté dans les affrontements. Hein. Rimbaud le disait, il faut avoir la philosophie féroce. Hein, donc Vaillant l'avait, oui, jusqu'à la mauvaise foi. Oui. Surréaliste contre la révolution, évidemment, relève un petit peu de cette.
Oui, c'est un pamphlet. C'est un pamphlet. Oui. Mais disons que c'est un peu tiré par.
Oui.
Voilà. Tout de même. Mais par contre, c'est vrai que même si on n'est pas d'accord, il y a des choses.
Mais c'est pas un pamphlet ridicule, c'est pas un pamphlet idiot, c'est pas un pamphlet qui est uniquement dans le vinaigre. Je crois que c'est aussi le fruit d'une réflexion. Alors ça excède, parce qu'il y a toute l'histoire entre lui et ces jeunes gens, que sont Breton et Aragon, qui sont là. Mais je crois quand même qu'il y a aussi des choses intéressantes dans ce pamphlet. C'est pas quelque chose qui est à jeter comme ça, non mais...
Ah oui, non mais de toute façon, moi je veux dire, aujourd'hui là, donner une interview au Figaro, aussi bien en 45 que maintenant, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible.
C'est pas possible. Tout de même, le Figaro garde le... Alors, ça c'est Vaillant. Tout de même, le Figaro garde le sens des convenances. L'article s'appelle « Breton nous parle ».« Breton nous parle » est placé en bas de la page, discrètement sous une frise de poupée Hopi. C'est les poupées que Breton avait ramenées. Le haut de la page est occupé par une statue équestre de Foch et un gros titre sur trois colonnes. « Un maréchal de France peut-il sans képi être statufié à cheval ?»
C'est plutôt drôle, non, quand même.
C'est très drôle.
Ouais. Donc c'est ça, il faut renvoyer aussi le pamphlet à l'humour.
Voilà.
Qui nous emporte comme de fous.
ce n'était que le bruit du vent dans la cheminée. Et tout de suite, un étrange sourire tendre effleura mon visage. Je la voyais se pencher par la fenêtre du wagon et tomber juste au moment où passait l'express en sens inverse. Les particules de son corps pulvérisées avaient instantanément maculé les deux trains. Sortie de la gare du cœur, mais en étions-nous sortis, elle eut subitement peur du vent. J'appelais un taxi, taxi, taxi. Et tout de suite, un étrange sourire tendre effleura mon visage. Je la voyais se pencher par la fenêtre de la voiture, juste au moment. C'est l'autobus en sens inverse. Les particules de sa tête pulvérisées avaient instantanément maculé les deux vies.
Au 01 43 111 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Bah, coup de téléphone pour nous rappeler à l'ordre, faut pas exagérer. Le surréalisme contre la révolution, c'était publié aux éditions sociales.
Oui, aux éditions.
C'était les éditions du Parti communiste ?
Oui.
D'accord, voilà, c'est très très bien ça. Donc on arrive à cette période-là. Il y a une période flottante chez Vaillant, parce que Aude, en technique, veut absolument qu'on parle de Marat. On ne peut pas faire Roger Vaillant sans parler de Marat,
non,
c'est pas possible. Hein.
Certainement.
Il y a un flottement, parce qu'à un moment donné, il n'est ni à gauche ni à droite, il est quand même complètement flottant à un moment donné, Vaillant.
Au tout début de la guerre ?
Oui, même un petit peu avant, c'est-à-dire...
Il y a une forme d'hésitation, mais qui est pour beaucoup celle de la période. Il y a un refus chez Vaillant qui n'a jamais... C'est le refus de la bourgeoisie, c'est le refus de ce système. Et il trouve qu'au début de la guerre, il y a beaucoup de gens qui ont été du côté de Munich, les Munichois, etc. Et il a une haine pour tous ces gens-là. Il a du mal à se situer par rapport à cet événement. Et puis très vite, il va réaliser que le combat premier à mener, c'est le combat contre le nazisme.
Il a quand même un gros problème, c'est le problème de l'alcool, de la drogue, etc. Qu'il rend inopérant pour un homme d'action.
Ouais, et il va décider de suivre une cure pour entrer dans la résistance. Donc,
terrible cette histoire, parce que ça dure quelques mois. Ça dure quelques mois et c'est radical,
ouais,
non?
Oui, ouais, c'est une cure difficile. Je crois. On a des traces littéraires de cela. Oui, c'est une cure très très difficile. Mais Weyer a pris sa décision. C'est un homme très volontariste. Hein, il place la volonté au-dessus de tout. Donc il avait décidé de se séparer de la drogue pour pouvoir rejoindre le combat clandestin.
Donc il rentre. C'est le réseau de Noël Cordier, secrétaire de Jean Moulin.
Oui, c'est le réseau de Daniel Cordier qui. Enfin, c'est le réseau de Daniel Cordier. En tout cas, c'est un réseau qu'alimente en fond Daniel Cordier, où Vaillant va, semble-t-il, avoir des responsabilités importantes. Et jusqu'à la fin de la guerre, il va animer un réseau qui a beaucoup de pertes, je crois. Oui.
Il est c'est dans les destructions des voies, c'est ça
Oui, c'est un réseau d'information qui aide au sabotage, et notamment au sabotage des voies, des réseaux de communication.
Et là, on va arriver à ce qu'on appelle la haute... Avant qu'il ait vraiment écrit quasiment son livre majeur, Drôle de jeu, on va arriver à la haute théâtralité de Vaillant.
Oui, ben Vaillant, en tout cas... Oui, mais Vaillant est un homme qui arrive à tout transformer en cérémonial. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez séduisant chez lui. Donc c'est effectivement un homme de théâtre pour qui le jeu est décisif. C'est pas pour rien qu'il appelle ce premier roman drôle de jeu. C'est un des rares romans d'ailleurs écrit, si ce n'est le seul, écrit directement en relation avec la résistance.
C'est le premier. Résistance. Ça doit être le premier.
Et en tout cas, c'est son premier roman.
Non, mais c'est le premier.
Et puis c'est le premier comme ça.
Comme ouais, ça ouais. Oui,
donc c'est un roman assez fondateur par bien des côtés. Et en même temps, un roman qui suscite quand même pas mal de remous hein, quand il sort, parce que c'est un point de vue sur la résistance qui ne semble pas être le point de vue le plus partagé.
Et vous croyez pas que là c'est aussi encore une fois un compte à régler par rapport à Breton, Daumal et Lecomte, c'est-à-dire que vraiment il se confronte à l'histoire avec un grand H, alors que bon, Breton est parti aux États-Unis et que en fin de compte Daumal et Lecomte c'est pas tellement leur problème quoi.
Non, puis ils disparaissent presque au tout début de la guerre, comme on le rappelait tout à l'heure. Et Breton, en effet, n'est pas là. Je crois que Vaillant est en... Alors, je ne sais pas... Non, il ne vise personne. Je crois que ce qu'il vise, c'est vraiment à se débarrasser de ce nazisme et à transformer les rapports sociaux en France. Je crois que c'est ça, le sens profond de son engagement. Et en même temps, c'est comme ça qu'il devient écrivain. Hein. C'est-à-dire, à partir du moment où il a une confiance en l'histoire et en sa place dans l'histoire, qu'il retrouve la possibilité d'écrire. Il avait fait des tentatives pour écrire, mais il disait à chaque fois « j'ai pas confiance en moi, ça marche pas, j'échoue ». Alors c'est vrai qu'il y avait la drogue, il y avait l'alcool, il y avait d'autres préoccupations, il y avait les ballets nocturnes, comme il les nommait. Mais je crois que fondamentalement, ce qu'il fait le venir à l'écriture romanesque, c'est qu'il retrouve ou qu'il trouve une place directement dans l'histoire, et que cette place dans l'histoire n'est pas séparable de l'écriture.
Alors Vaillant, Trévache, là, le site de mémoire Trévache, il règle son compte, je crois que c'est à Lecomte et encore à Daumal, il arrête bon quand même. Il dit à un moment donné, oui, c'est beaucoup plus difficile d'arrêter les chars nazis en fumant de la drogue qu'en prenant une mitraillette, c'est une phrase comme ça. Quoi.
Oui, il est un peu méchant, mais il faut dire que sa méchanceté, elle vient aussi de la force qu'il a eue lui-même de se séparer de la drogue pour justement entrer du côté des combattants.
Alors là, je vais faire une grande confidence, parce qu'on se voit, Christian Petre, et puis Aude-là, là, effectivement, il y a quelques mois, Aude a lu Drôle de jeu. Marat, bom 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 bom, alors là, vous comprenez, hein, déjà, nous, en tant qu'être masculin, on a beaucoup de mal avec Marat,
ouais.
Alors les dames, vous pensez bien, voilà. Mais, on va en parler, là, mais la perversité est telle que ce personnage, on va dire, il est en pleine force, hein, il est en pleine force par rapport à l'histoire. Il faut avouer que 10 ans, vous me corrigez, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, dans Mon pied, bon oeil, les choses ne sont plus les mêmes puisque Marat est castré.
Oui.
Marat est castré et Aude n'a pas trouvé le livre où Marat est castré. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas un lapsus révélateur quand même.
Sans doute.
Voilà. D'accord. On plante Marat un petit peu parce que c'est quand même un personnage vraiment, un des seuls personnages vraiment de...
Difficile, hein, en quelques... Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que Vaillant avait, pendant la résistance, essayé d'écrire un essai sur lui-même, en quelque sorte, qu'il avait intitulé Marat, ouais, Marat se regardant. Et puis, ça n'avait pas trop bien marché, même s'il y avait des traces intéressantes. Et avec la fin de la guerre, il l'a inséré dans un roman, et là, ça a démarré. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? C'est un personnage, comment le qualifier d'ailleurs? C'est pas si facile.
Déjà, on pourrait, Christian, la grande sympathie. De Vaillant pour Jean-Paul Marat.
Bien sûr, d'abord et avant tout, ce pseudonyme, c'est l'admiration sans limite qu'il a pour Marat. Ouais. Marat, c'est une figure pour lui, je crois qu'on peut le dire comme ça, il ne l'a jamais exprimé en ces termes, mais c'est quand même la figure de l'écrivain nouveau, hein, c'est-à-dire de celui qui à la fois naît de la terreur, la suscite et naît de la terreur à l'écriture, donc c'est pour Vaillant une espèce de parangon de l'écrivain moderne. Donc il y a cette fascination incontestable pour Marat, enfin une fascination en tout cas raisonnée. Hein. Mais il y a aussi dans le roman, c'est que ce personnage de Marat, c'est le pseudonyme de celui qui porte comme nom Lamballe, qui est un prince du XVIIIe siècle, un prince libertin. Donc Vaillant, c'est tout à la fois, je crois que dans sa vie, ce sera ça, on le disait tout à l'heure déjà, il faut le redire, c'est ça l'important, je pense, comme écrivain et comme individu, c'est ce lien qu'il fait entre une liberté individuelle et une liberté collective. Donc Marat-Lamballe, en quelque sorte, c'est cette articulation des deux. Donc il y a bien du Vaillant dans ce Marat-Lamballe, bien entendu. Oui.
Donc Marat ou Vaillant, enfin pour l'art.
Marat-Vaillant.
C'est celui qui traverse la guerre, mais en fin de compte, en dandy, il bouffe au marché noir. Son commerce de chair.
Non, à aucun moment. Non, les choses ne sont pas séparables. Sauf quand l'événement le commande. Si jamais la résistance le commande, eh bien, il faut accepter de ne pas boire pour ne pas se mettre en situation difficile ou de ne pas trop fréquenter les mises en clos si jamais les tâches l'ordonnent. Mais autrement, non, ne jamais sacrifier ses plaisirs.
Il y a un concept auquel vous ne pouvez pas échapper, c'est quasiment le leitmotiv de toute l'œuvre de Vaillant. C'est le concept de souveraineté.
Oui. Et c'est ça qui est, je crois, le plus séduisant chez Vaillant, c'est cette nécessité faite à l'individu d'être libre. C'est ça la souveraineté, c'est pouvoir décider librement de sa vie. Alors c'est une utopie, mais sans utopie, il n'y a pas de vie possible. Donc c'est ça la vraie... c'est être susceptible de se dominer et de choisir librement sa vie. Tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. L'idéal pour Vaillant, c'est évidemment qu'il n'y ait plus que des souverains. Le souverain, un souverain. Mais la période manque cruellement de souverains, donc il faut les fabriquer, d'où la participation au combat collectif.
Et vous parlez de la nôtre ou vous parlez de
la sienne et la nôtre, les choses ne se sont pas améliorées, j'aurais plutôt été régressé.
Ouais. C'est Descartes ou Pascal, jeune homme vertu, la pleine possession de moi-même.
Oui, la division. Il y a ce côté-là chez Vaillant, oui. C'est ça, le vice c'est celui qui est dominé, le vicieux c'est celui qui est dominé par lui-même et par les autres. Et qui fait de cette domination une vertu. Ça, c'est le vice par excellence.
Chez Vaillant, avec ce rapport à la souveraineté, on parlait de Marat. Je crois qu'il y a deux choses à dire. C'est que si Vaillant a abandonné la poésie très tôt, il y a une chose qui le titille extrêmement, c'est la philosophie. Il dit à un moment donné, à 40 ans, je serai un bon philosophe.
Oui. Mais il très jeune, déjà étudiant, il était de formation philosophique en fait. Il a jamais voulu enseigner, donc il a fait une cagne, une hypocagne et une cagne. Mais il a jamais voulu présenter Normale Sup parce qu'il avait pas envie de devenir prof. Mais en revanche, il avait envisagé de déposer une thèse sur Hegel, je pense. En tout cas, il est très hegelien, il connaît bien la philosophie. Il a eu toute sa vie le souci d'un essai sur... je ne sais plus quels étaient les termes exacts qu'il utilisait. Je crois qu'il disait la nature humaine opposée à la condition humaine. Peu importe les termes, on voit bien que ce qu'il préoccupe, c'est l'homme dans son développement singulier. Donc ça, c'est une problématique de philosophe. Il a des copains philosophes, et notamment Henri Lefebvre, qui a été quand même un penseur non dénué d'intérêt, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc c'est un souci permanent avec lequel il fait du roman aussi. Je crois que c'est un roman qui frotte sa peau à la philosophie.
On va résumer, là, c'est-à-dire que c'est un dialecticien avant tout.
Je pense que c'est un dialecticien, c'est incontestable.
De A jusqu'à Z, du début jusqu'à la fin.
Oui.
Il veut tout
ça
résoudre.
Ça grippe parfois,
voilà.
C'est bien.
Voilà, c'est bien, voilà, très bien.
Mais c'est un dialecticien.
Des fois ça coince.
Ah, des fois ça coince,
mais
ouais.
On sent que c'est son vice.
Il veut
tout résoudre en termes de dialectique.
Oui, bien sûr. C'est ça sa passion. Oui.
Même ses rapports, on va y arriver, avec les filles, l'argent et la prostitution. C'est très intéressant, il nous fait des tableaux idéologiques par rapport à ça. Des fois, c'est difficile à soutenir, non ?
Oui, aujourd'hui, je pense que c'est une parole à peine audible. Hein, quand il dit que la prostituée, c'est l'être souverain par excellence, enfin, à l'heure actuelle, c'est l'être souverain, oui.
Ouais, à peine audible.
En tout cas, oui, c'est à peine audible.
Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il est en fin de compte un homme du 18e ?
C'est un homme du 18e parfaitement à l'aise dans son temps, c'est ça qui est formidable. Oui. Ouais. Il avance pas avec dans le rétroviseur le 18e siècle, il avance avec au coin de l'œil le 18e siècle, c'est pas exactement la même chose.
Avant qu'on voit ça, je vous ai pas invité mais convoqué, parce qu'il y a un petit détail sur Vaillant que je recherche. Je l'ai trouvé deux, trois fois et comme un imbécile, je n'ai jamais noté. Alors, est-ce que vous avez référence de cette histoire, de sa rencontre avec Brasillac à la Libération ? Cette histoire,
ce qu'on sait, c'est un peu d'ailleurs comme Vaillant et Aragon, comme Aragon et Drieux,
qui étaient très copains.
On y va, ouais. Aragon, Drieux, c'était deux copains que évidemment les engagements ont séparé, mais qui n'en sont pas moins restés copains. Parce que je... Brasillac et Vaillant, c'est deux copains aussi de Cagne, donc ils sont restés très proches pendant assez longtemps. On dit, j'ai pas la référence,
voilà,
mais on dit qu'à la fin de la guerre, Brasillac était en fuite, aurait croisé Vaillant, oui. Et Vaillant lui aurait proposé de le planquer, voilà, en disant t'es un salaud, mais...
Vous l'avez là,
non, je sais pas où j'ai... Mais ça se dit, ça se redit, alors... C'est un fait de légende.
Oui, moi je l'ai aussi, ça serait passé rue.
Et Brasillac a dit non, j'irai à ma mort.
Ça aurait été oui, Saint-Michel, c'est ça, voilà. Des arts, il marche dans la rue, tiens, tu
ouais,
es là.
J'ai la même histoire en tête.
Et je te planque.
Ouais, j'ai la même histoire en tête.
Philosophiquement, c'est intéressant.
Est-ce qu'on
planque un copain
Répondez-moi
à ça, est-ce qu'on planque un copain ou pas?
Ça dépend du copain, on peut pas répondre dans l'abstrait.
Dans ce cas-là.
Il fallait qu'il l'aime vraiment, Brasillac, pour lui proposer ça. Compte tenu quand même que.
Brasillac était loin.
C'est le moins qu'on puisse dire. Bien plus loin que Drieux, sans doute, par bien des côtés. Qu'héberger ce salaud, c'était quelque chose.
Il a quand même écrit il faut tous les exécuter, y compris les petits, des gosses juifs.
Non, il est allé.
Alors, ouais, donc jusque... je cherche désespérément quelqu'un qui peut m'éclairer sur la.
Moi, j'en suis à la légende, comme vous. La légende vous fait vrai, mais. Ouais.
Et le dilemme est très beau. Je ne sais pas si Vaillant lui a dit ou pas. C'est quand même un drôle de.
Vous savez qu'il y a. C'est pas un tendre Vaillant, ouais. Donc c'est un homme, comme on le disait, de rigueur, donc, et d'un côté et de l'autre. Bon. Donc, quelle aurait été vraiment sa position, j'en sais rien.
Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a habité le même hôtel que Céline à Montmartre. Ouais. Et Céline est au-dessus ou en dessous, j'en sais rien. Il propose d'aller descendre Céline, quoi.
Oui, alors ça, on ne sait pas au plus si ça relève pas du coup de Brasillac. Ce qu'on sait, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, Céline l'appellera Vaillant mon assassin mou. Ouais, il le nommera comme ça en disant « Ah oui, c'est lui qui a pas osé me tuer ».
On en est à Marat, là, avant d'écouter la musique. On peut pas passer, il y a quand même bon pied, bon oeil.
Oui.
Faire la peine à Aude, mais on n'y peut rien. Là, effectivement, il a besoin de se débarrasser et de castrer Marat.
Ouais.
Ça, c'est dialectique chez Vaillant.
Oui, c'est dialectique. Mais qu'est-ce que c'est que ce Marat qu'il castre? C'est un Marat qui n'arrive plus à s'accorder avec l'histoire. Donc, il y a une part de lui-même, voilà, qui lui échappe. La souveraineté chez Vaillant, c'est toujours ce double travail sur les autres et sur soi. Et le Marat de bon pied, bon oeil, c'est plus le Marat de Drouge. C'est un Marat qui n'arrive pas à s'insérer dans les combats de l'après-guerre. Parce que tout simplement, ils sont à la hauteur de ceux de la résistance. Il fait figure un peu de vaincu. Il n'arrive pas à s'accorder avec ces mouvements de l'histoire. Et c'est la castration, c'est le signe de ce désaccord. Quoi.
Vous y croyez, vous, Roger Vaillant, vendant l'humanité?
Vaillant était dans son village. Vaillant, c'est à la fois un dandy et c'est pas un mondain. Dans son village de Meillonnas, il allait avec son seau coller des affiches et il devait vendre l'humanité. Ça, c'est incontestable. Mmh. Oui.
Enfin, je veux dire, vous y croyez vraiment qu'il y a pas un malaise chez lui? C'est toujours pas le même problème de l'intello qui essaye de chevaucher le mouvement ouvrier, parce que c'est encore ça à l'époque.
Je pense que ça a été un des éclairs. Après, on peut toujours se tromper parce que je ne l'ai pas connu assez intimement, etc. Mais pour avoir un peu connu sa femme, Isabelle, je pense que là-dessus, son témoignage est juste. Je pense que Vaillant n'avait vraiment aucun problème dans le monde ouvrier. C'est un de ces intellectuels qui se sentait vraiment très très bien. Il ne jouait pas. Et d'ailleurs, à un moment de sa vie, c'est quand même aller vivre dans un hameau, sans une maison sans eau, sans électricité. Il fallait marcher 3 km pour aller. Plusieurs années qu'ils ont vécu avec sa femme, enfin avec Elisabeth. Donc ça signifiait que c'est quelqu'un qui n'était pas. Ouais. Non, il était à l'aise chez les paysans dans le monde ouvrier.
Elisabeth Naldi, qui vient quand même de la Haute. Hein.
Aussi. Oui. Mais qui vient aussi de la résistance.
De la résistance,
ouais,
un personnage magnifique.
Ouais, oui.
Magnifique, Isabelle Naldi, magnifique, c'est quelqu'un de... Voilà,
une grande figure.
Une grande figure.
Ouais. Black boots on the floor, figuring out what the walking's for. Two black boots, now together, learning the price of the stormy waver. J'ai dans les yeux le souffle.
souvenir d'un papillon aux ailes couvertes d'écailles, dont les quatre pétales répandent dans la nuit une haine de fécondante poussière. En sont amoureuses, grand buveur de parfums nocturnes, il s'immobilise en plein vol pour téter le nectar sucré des fleurs. Il le fait ainsi l'amour. Quand il s'aime, deux papillons de nuit se tiennent longtemps, serrés très fort, dans un parc vide. Au crépuscule, ils se sont rencontrés sur un banc de bois peint. De leurs ailes et ne se séparèrent que le soir. Ce vagabond a fait 100 fois le tour du jardin et sa bouche toute pleine de sel des fleurs. Il met beaucoup de temps à naître, mais vit très vite et meurt d'épuisement parmi d'odorants démeurés. Qui nous délivrera de cet encombrement de chair et qui prive notre peau de s'envoler et comme lui.
Nous avons promis de nous cotiser pour offrir à Aude bon pied bon oeil pour son anniversaire.
On se cotise.
Des gens de parole, il n'y a aucun problème. Donc Roger Vaillant, on parlait de l'honnête homme, là, il meurt avec le drapeau de la livre pensée sur son cercueil et quand même le Bellaccio des partisans italiens. Hein, c'était pas encore.
Oui, c'est un homme qui peut se retourner sur lui-même. Il a été fidèle à lui-même. Je ne suis pas sûr que la fidélité soit toujours une vertu, mais une certaine forme, certainement. Je crois que Vaillant a été. Et en ce sens, c'est un honnête homme. Oui. Il n'a jamais passé de louche compromis avec ses idéaux de jeunesse. Oui. Je pense qu'il peut être content de lui-même au moment de sa mort.
Toutefois, nonobstant, on arrive dans la salle année, la salle période 56. On sait depuis 53, vous me corrigez que le rapport Khrouchtchev 53, non ?
Non, 56.
Tout s'écroule, le monde s'écroule pour lui.
Ouais.
Voilà. Et on tombe sur cette interrogation, moi qui m'a toujours que je n'arrive pas à résoudre, comment des gens si intelligents, si dialecticiens, il n'est pas le seul, c'est pas une excuse, hein, parce que je disais Edgar Morin la dernière fois qu'on ne peut pas taxer d'être d'abruti intégral, qui a marché là-dedans aussi. Comment vous pouvez expliquer ça?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs d'explication. Je pense en tout cas que ça doit être que la lucidité n'exclut pas l'aveuglement. Ça, hélas, c'est une des leçons de cette triste histoire. Mais je pense qu'aussi cet aveuglement, il est né des conditions terribles de l'après-guerre, de cette guerre froide, de cette nécessité de prendre parti, d'être dans un camp. Hein, il était bien difficile de ne pas l'être. Je crois que certains l'ont été, en effet, mais c'était quand même bien compliqué. Vaillant était un homme à la fois de raison et de passion. Hein. Il avait mis en l'Union soviétique beaucoup d'espoir, dans le mouvement révolutionnaire énormément d'espoir. Il était assez lucide sur les formes que prenait cette révolution. Hein, il y a des textes très 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 puissants de Vaillant, très féconds là-dessus, sur le fait que pour lui les pays socialistes, comment le dire d'un mot, c'est qu'ils s'étaient s'il pensait qu'ils s'étaient vraiment engagés à transformer le monde, avaient oublié de changer la vie et que par conséquent c'était pas si désirable que ça, mais que néanmoins dans les conditions, voilà, il fallait s'allier à eux pour bon, très bien. Et puis il réalise en 56 lui d'autres qu'il a été joué, hein, qu'il croyait être le maître du jeu et qu'en fait il a été en partie joué. Et effectivement, la chose est terrible.
On a commencé par le sacré, tout à l'heure par le sacré, mais il a quand même travaillé avec le portrait de Staline dans son bureau jusqu'au bout. Là c'est quand même une idole quelque part.
Ouais, en tout cas, qu'est-ce que c'était que Staline pour lui? C'était vraiment le modèle de l'homme nouveau. Ouais. Aujourd'hui, ça peut paraître cocasse, mais c'était certainement ça pour lui. C'était le symbole de cette utopie à laquelle il...
Et comment expliquer qu'un grand styliste, un très grand écrivain, un très grand narrateur,
magnifique,
puisse essayer de faire du théâtre? Je ne sais pas si vous connaissez. Alors lui, l'homme dramatique donne un théâtre assez pauvre, parce que le colonel Foster plaidera coupable, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Très bien, oui.
Allez-y, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je pense que ça n'a pas été un grand homme de théâtre.
C'est paradoxalement. Ouais.
Tant il a écrit 3 pièces, je crois.
Oui, Monsieur Jean, Héloïse Abélard.
C'est sa première, Héloïse Abélard. Ouais.
Et c'est pas bon du tout.
Sinon. Non, c'est pas bon. Non, c'est très curieux que cet homme pour qui le théâtre était quelque chose d'important, mais c'est un théâtre lu, hein, d'abord pour lui. Enfin, il avait une connaissance du théâtre qui restait quand même. Du théâtre joué qui était très faible. Ben cet homme de théâtre est un mauvais dramaturge. Mmh. Même si, pour lui, le théâtre est un moyen de penser le monde. Mais il a une référence très formelle au théâtre. Ça ne marche pas quand il en fait.
Vous savez, comme le Marquis de Sade, c'était pareil. Après tous ses romans délirants et magnifiques,
ouais. Il rêvait de faire du théâtre. Sa passion, c'était le théâtre.
Mais c'est du lâcher. Il faut dire que c'est pas bon. Rien ne restera.
Non. Pour ce que j'en connais, c'est pas très bon. Voilà. En effet, oui. Non, c'était... Et Vaillant, c'était une passion aussi, le théâtre. Mais il voyait le roman comme un théâtre héroïque. Mais il était bien meilleur dans le roman que dans le roman et dans l'essai que dans le théâtre, ça c'est sûr.
Ouais. Il joue la carte des pays de l'Est, c'est-à-dire quand il écrit le colonel Foster, plaidera coupable, qui a été interdit, qui a eu...
Ah oui, ça a été interdit au sort de la première en France, c'est les groupes fascistes qui sont venus foutre le bordel théâtre. Ça a été joué à Berlin, c'est à là Berlin. Qu'il rencontre Brecht, et puis ça a été joué dans différents pays socialistes, y compris, je crois, jusqu'en Corée, sur les lignes de front. Oui, mais il choisit quoi? Il choisit la lutte anti-impérialiste. Il est persuadé qu'en Corée se joue une partie du destin du monde, donc il faut soutenir les partisans coréens.
Très drôle qu'un dialecticien, on met entre guillemets un pervers, il y a une perversion chez Vaillant, on peut y aller au sens réel du terme, un pervers, c'est pervertéré, détourné, devienne à ce niveau-là extrêmement manichéiste, c'est-à-dire qu'en fin de compte il y a deux camps, il y a le camp des impérialistes et le camp des sommats soviétiques.
En tout cas, il y a un camp à défendre, ça c'est sûr, oui. Mike, je ne sais pas, mais il y a un camp à défendre, c'est l'urgence. Et il se lance résolument dans l'action, en s'inscrivant au Parti communiste français, en militant dans sa cellule. Il n'a jamais eu vraiment de rapport avec la direction du parti, en tout cas. Pas pour y avoir un quelconque pouvoir, et puis en liant profondément son écriture à cette action.
Vous savez que Breton a été au Parti communiste aussi. Il était affilié à la cellule du gaz.
Jeune, très tôt.
La cellule du gaz.
Il a déchanté. Hein,
ça, oui. Vous imaginez Breton, la cellule du gaz.
Ça n'est pas très bien d'aller. Ça
n'a pas allé. Donc, cette déception qui est. C'est un écroulement. Il vit un écroulement en 56.
Ah oui, je pense qu'on a du mal aussi à réaliser à quel point c'est un écroulement, parce que c'est un homme qui menaçait qui menace de se suicider, enfin, qui la mort atteint. Oui. Il est dévasté. Il y a des textes d'ailleurs assez beaux de lui qui relèvent des écrits intimes où il essaye de dire cette dévastation, quoi. C'est terrifiant.
Donc il va partir
Ouais, c'est Elisabeth qui l'emmène en Italie un petit peu pour essayer de le récupérer, parce que vraiment ça va très très mal. Parce qu'il sait plus, comment penser l'histoire. Il sait que sans penser cette histoire-là, il est rien. Il faut vraiment essayer de. Il le dira après dans un roman qui n'est pas un mauvais roman qui s'appelle La Fête. Il faudra réessayer d'implanter mon histoire.
Qui n'est pas un mauvais roman non plus à ce point-là.
Bon, ouais. Mais en tout cas, c'est un roman où il essaie de se reprendre, et comme il le dit lui-même en un propos assez ambitieux, de réimplanter son histoire dans l'histoire. C'est une lourde tâche.
C'est ça, ouais. Bien sûr. Ouais. Et là, il tombe sur une perversité de l'histoire et de l'histoire littéraire. Ce qui va écrire la loi, prix Goncourt, et pour lui, et pas pour pas mal, il devient un vendu.
Ah oui, mais je crois que c'est un des Goncourt les plus vendus de l'histoire de Goncourt.
Il devient un traître à la bourgeoisie. Il devient vendu aussi, bien sûr.
Et alors après, le rapport de Vaillant au Goncourt, je ne sais pas, qu'en dire.
Ouais.
On lui aurait prêté ses mots en disant, les cons, ils vont voir comment on fait un Goncourt.
Vous n'avez pas l'impression que c'est ça? C'est-à-dire, tellement bon narrateur, il dit, bon, j'y vais, il se lance sur un sujet en prenant les thèmes vaillanesques. C'est un très beau livre, hein. Je l'ai relu dernièrement.
Mais oui, c'est pas mal du tout, la loi.
C'est un très beau livre.
Hein. Bon, qu'est-ce qu'il faut... Donc, je ne sais pas, le rapport qu'il a avec le Goncourt, c'est un peu indépendant du livre lui-même. Je crois que le livre est un bon livre, c'est un bon roman. C'est un roman, c'est très drôle aujourd'hui. C'est un roman qui a le Goncourt pendant que le Renaudot va à Michel Butant la modification. Ils étaient en compétition en fait sur le Goncourt. C'est Vaillant qui l'emporte. Donc c'est une forme de roman qui l'emporte. Quand aujourd'hui on relit Et la loi et la modification, j'ai quand même plutôt l'impression que c'est la loi qui l'emporte sur la modification, mm-hmm. Qui me paraît plus. Et pourtant j'aime bien la modification, mais mm-hmm. qui me paraît plus du côté de l'impasse que la loi qui ouvre sur autre chose. Mm-hmm. Donc il y a pas à rougir d'avoir écrit la loi, je pense pas.
Ah non, moi je pense qu'il y a une démonstration de la narration.
Ouais, c'est un bon roman. Après effectivement il a la loi alors qu'il a le Goncourt alors qu'il l'a pas eu avant, du temps où il était membre du parti, même si quand il écrit la loi, il est toujours membre, mais ça, personne ne le sait plus. Donc il apparaît comme celui qui s'est vendu.
C'est vendu.
Oui. Mais il aura une pirouette hein, pour s'en sortir. Il dira que bon, très bien, si je me suis vendu, c'est que je suis un putain. Et le putain, la prostituée, comment elle s'en sort? En affichant son luxe, il va aller s'acheter des jaguars, une jaguar à tout le coup.
Et finir avec Vadim, qui n'est peut-être pas une.
Et finir avec Vadim.
En tout cas, dans un grand écart, quoi, par rapport à Breton.
Je pense qu'il était séduit par Vadim, c'est très bizarre.
Très bizarre.
C'est séduit par Vadim. Oui.
Terrifiant.
Le charme de Vadim. Oui.
Terrifiant, oui. Oui. Donc, parce que le temps tourne et je voudrais que vous vos responsabilités sur un ou deux sujets quand même.
Allons-y.
Donc on arrive à la fête, la fête qui pour moi n'est pas un grand roman, c'est-à-dire il y a des très beaux passages.
Il y a des beaux passages dans la fête, oui. Ouais.
Par contre on arrive à la truite. Notre ami Franck Delorieux me disait, mais vous savez c'est un roman marxiste. Je n'ai pas trouvé tellement marxiste, mais c'est un roman extrêmement intéressant. Je l'ai relu.
Mais je vois bien pourquoi il dit que c'est un roman marxiste. Moi, je l'ai pas lu, donc c'est de mémoire, donc c'est un peu...
Oui.
Non, mais parce que c'est un roman qui se saisit du grand capital.
De l'économie, c'est ça.
Il n'y en a pas tant que ça.
C'est ça.
Et il le fait de façon très, très, très fine, je crois. Donc c'est en ce sens, probablement, que Delorieux a dit que c'était un roman marxiste. Oui, oui. Là, je pense qu'on doit pouvoir le suivre là-dessus, en reprenant la truite, en le lisant avec attention. C'est un roman qui avait d'ailleurs quand même suscité beaucoup d'intérêt chez certains, hein, y compris du côté du cinéma. C'est un roman qui titillait. Lacan aussi, à semble-t-il, a réagi à la truite de façon assez favorable. Moi, je crois que c'est un assez bon roman, mais il faudrait que je le relise.
J'ai pas pu le lire pendant des années, je l'ai lu cette année,
ouais.
Et c'est très, 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 très bien.
Ouais.
Et la dernière phrase, je l'ai citée de mémoire, elle est extrêmement d'actualité. Il dit, pour vous pourvu qu'elle tienne,
ouais.
Mais pourquoi faire,
voilà.
C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, on joue sur la dialectique, ouais. C'est-à-dire, tenir. Mais pourquoi faire? Et on met cette phrase-là aujourd'hui pour plein de gens. On est en plein dans le sujet.
En plein dans le sujet, oui.
Ouais.
Et en même temps, je pense que l'œuvre de Vaillant est peut-être une réponse à ce pourquoi faire. C'est une œuvre qui, je crois, nous invite un petit peu à savoir où aller.
Oui. Ouais. Bon, Christian Petre, on va faire maintenant, écoutez, un tout petit peu de musique. On fait Vaillant et les putes, Vaillant et l'argent.
Ah non, on
peut pas faire l'œuvre de cruauté. Alors, je ne sais pas comment on va y arriver. Hein.
On y arrivera peut-être pas, mais en tout cas, on va se lancer.
Merci.
Dans le bois ce soir.
blanches avec des sièges de chèvrefeuille. Prenez place, cher ami. Prenez la tulipe là, dans le rayon de lune et ses parfums. Et la pluie s'en va mouillant la faille. L'eau montait sur la table et troublait la vie. Son corps ému à volupté prenait. Il a coulé dans le premier ruisseau. Il faudra changer l'herbe et remettre la table dans la tente des prochaines pluies.
Sur Radio Libertaire au 01 43 71 89 40. Radio Libertaire, c'est toujours la radio, la fédération anarchiste avec Aude à la technique. On est toujours sur Onde de Choc avec Roger Vaillant et Christian Peck. Alors, une fille de la rue Saint-Lazare m'a raconté qu'elle comptait parmi ses clients un chef d'entreprise unanimement respecté et sur qui repose le sort d'innombrables familles ouvrières. Chaque mercredi, avant de regagner son hôtel de Neuilly, où il rentrera comme chaque jour prendre le repas du soir au sein de sa famille, il se rend dans une célèbre brasserie voisine de la gare Saint-Lazare et y achète tous les éléments nécessaires à la confection d'une choucroute garnie. Puis, il va passer un court moment avec la fille, se contentant, bien qu'ayant consenti au tarif des fantaisies les plus pénibles, pour la patiente de lui demander de souiller les garnitures de la choucroute. Il ne paraît prendre aucun plaisir à ce cérémonial, mais sa satisfaction est totale dans le moment où il voit son épouse, ses enfants et toute sa parenté manger les mets, merveilleusement pollués, en lui rendant grâce d'une délicate attention si ponctuellement renouvelée. Et il dit « Ces cruautés-là ne m'intéressent que comme illustration de la décomposition d'un certain milieu. Il y a 50 ans, ce chef d'entreprise eut entretenu une danseuse, comme on disait, et laissé sa femme dîner seule à la maison. » Voilà, c'est quand même ça, c'est Roger Vaillant, le regard froid.
Il n'y a rien à rajouter.
Non, il n'y a rien à rajouter, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quand même une polarisation sur les filles, sur une façon de sortir de la morale commune. Grâce aux filles, je dis bien grâce aux filles.
Avec elles.
On a le fouet, on a l'entrave, on a les orties, et puis là on a la souillure.
Que dire ?
Oui, vous êtes là pour ça, je vous signale.
Oui. Non, c'est un homme qui aimait les prostituées. Il en a fait un grand usage dans sa vie. Il les a joliment défendues dans ses essais, notamment dans ce regard froid. C'est un homme qui, toute sa vie, affirmait la nécessité de se débarrasser de tous les tabous. Donc, y compris de celui-là, sur tous les plans, politiques, sexuels. Il a revendiqué hautement sa liberté, ses pratiques.
Je disais,
il n'a jamais fait un modèle de vie.
C'est-à-dire
qu'il n'a jamais exigé des autres qu'ils aient un comportement identique au sien. Mais la seule chose qu'il pouvait exiger, c'est de décider souverainement, comme on le disait tout à l'heure, de sa vie. Ce qui n'est pas exactement la même chose.
Donc il ramasse les filles, il les amène chez lui. Elisabeth participe,
oui.
Voilà. Ce qui n'est pas bien vu par le Parti communiste français.
Oh, c'est pas bien vu par le Parti communiste français, mais faut peut-être pas exagérer non plus là-dessus, parce que le meilleur ami de Vaillant à cette époque-là, c'est un ouvrier pour lequel il aura un respect énorme, une amitié vraiment profonde, qui s'appelle Henri Bourbon, qui est député communiste de là. Bourbon est très au courant, évidemment, il était le témoin de mariage d'Elisabeth et de Vaillant, il vit à côté de chez eux à Mayonnais, il est très au courant des pratiques d'Elisabeth et de Vaillant, et ça ne le choque nullement. Même s'il considère que c'est pas sa vie, c'est pas sa façon d'être, mais il l'admet parfaitement chez Vaillant et chez Elisabeth, autant que je le sache.
Ce besoin de payer, là, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce que ça revient, c'est récurrent. J'ai payé, je paye, c'est comme si c'était une ouvrière, une actrice, voilà, une actrice.
La pute est actrice. L'argent, c'est quelqu'un qui n'a pas, qui a essayé de réfléchir sur la place de l'argent, pas simplement sociologiquement, mais sur la place de l'argent dans sa vie, dans ses désirs, y compris d'ailleurs dans son activité créatrice. Hein, l'argent, il est toujours présent. D'ailleurs, avant d'écrire Drôle de jeu, hein, autant que je m'en souvienne, il y a trace de ça dans ses écrits intimes, il dit qu'il avait une idée de roman qui était un homme qui fabrique des faux billets de banque. Donc c'est vraiment quelque chose de récurrent chez lui. Et c'est très bien, il sait très bien que l'argent part importante de nos vies, et il en fait un élément décisif, hein, de sa réflexion à tout moment, donc y compris dans les rapports amoureux.
Après cette émission-là, alors si on veut partir à la découverte de Vaillant, qu'est-ce qu'on lit ? Qu'est-ce qui est trouvable selon vous ? Allez, hop, on y va.
Tout dans le désordre, mais ouais. Non, Drôle de jeu, c'est une bonne entrée. Il y a deux choses. On se le disait en rigolant tout à l'heure, et pour reprendre une de ses formules, à chaque saison, son roman ou son... Je pense qu'il y a deux, trois choses à lire de lui. C'est peut-être Drôle de jeu pour commencer, parce que c'est une bonne entrée, c'est son premier roman, c'est une bonne entrée. Toute son œuvre ensuite ne va cesser que de développer la problématique qu'il met en place. De lire peut-être un essai, c'est un grand essayiste.
Un grand essayiste, ouais.
Il me semble que lire Le regard froid, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ouais. Je pense que c'est vraiment...
Quel style au niveau des aphorismes,
Oui, parce que quand même, il faut le redire, c'est un grand styliste. Hein. Ouais. C'est une façon vraiment de manier la langue française qui est remarquable. Et bien à lui. Donc, Drôle de jeu, Le regard froid, c'est déjà pas si mal. Et puis, ça a été aussi un grand journaliste littéraire. Donc on peut aller regarder, Rodé Ballet qui était un ami de Vaillant, avait réédité les articles de Roger Vaillant. On y apprend beaucoup de choses.
À la fin de... ça termine votre livre, là. Il y a cette fameuse formule qui traîne depuis l'enfance, qui dit simplement « Pou qui peut poum n'est plus pou ». Ça veut dire quoi ? Alors je répète « Pou qui peut poum n'est plus pou ».
Oui, ça aussi, Vaillant l'a traîné toute sa vie. Oui, vraiment toute sa vie.
Hein. Oui. Alors c'est quoi ? On traduit pas, on laisse comme
ah
ça.
Ah si, on peut traduire.
Allez-y,
oui,
traduisez.
C'est, tant qu'on est maître de sa mort, on est libre.
Oui, c'est beau.
Oui, c'est beau.
Magnifique. Et bon, votre ouvrage...
C'est une belle formule.
Votre ouvrage finit par une photo de Vaillant qui est chauve.
Elle est belle, cette photo.
Ah là, je ne sais pas, vous l'avez eue.
Alors, il faut le dire, c'est une photo d'un ami de Vaillant, qui est un grand photographe, qui s'appelle Marc Garanger. Ouais. Et c'est une photo magnifique. Et
on ne la connaît pas.
Elle est très peu connue.
Très peu connue.
Très peu connue, ouais. Marc l'a donnée. Et j'avoue que je ne la connaissais pas. Pourtant, je connais bien Marc depuis longtemps. Mais je ne connaissais pas cette photo de Vaillant.
On voit Vaillant qui est chauve. Alors, il disait qu'il y avait le plus beau crâne intellectuel du monde, là, en France.
De Paris, en tout cas, oui.
Voilà. Et donc, on le voit, il est penché sur un dos de jeune femme.
Et un très beau dos.
Alors, le dos est magnifique. Ouais. Et il y a une légende, chauve et blanc. Et voici, et voilà... Et aimé après-midi, après, Joël, féminin, N, Jackie, féminin, la petite Catherine, Françoise, Betty, tablier de cuir, et celle-ci, et celle-là, et voici, et voilà.
Oui. Voilà. Les femmes, l'humour et la politique.
Voilà. Et on trouve quand même Betty, tablier de cuir, oui. Obsession.
Oui.
Voilà.
Oui.
Voilà, donc Roger.
C'est pas mal, Vaillant.
Ah, magnifique, mais Vaillant, c'est magnifique. Donc, lisez Roger. C'est trouvable, ça?
Oui,
voilà. Alors, Christian Petre, je suis Roger Vaillant, voilà. Trouvable où ça? Il faut le commander. Non.
Oui, ou aux éditions Jacques André.
Voilà, c'est, il faut quand même le dire, Jacques André. Alors, Pou qui peut poum, n'est plus pou.
Hein, Pou qui peut poum.
Bah, merci, Christian, c'était très agréable.
Merci à vous.
Merci, Aude.
Chaque petit recoin d'amour, enfermé à double tour comme des enfants brimés, la punition pour seul. Liberté. Derrière les barreaux où sont jetés nos cœurs, on a appris à survivre, nourris de peur. Et les hommes pleurent encore, ils pleurent, et leur talent meurt, encore ils meurent. On construit de belles et grandes forteresses, même si chaque pierre nouvelle nous plonge dans la détresse. Cette cage étroite nous oppresse, nous empêche d'inventer un monde d'allégresse. Je vis en toi, en toi. Le vent tonne des bruits sourds, déporté, le soleil rouge a séché nos tendres aînés, ont laissé la porte fermée. Les barreaux où sont jetés nos cœurs, on a appris à survivre, nourris de peur. Et les hommes pleurent encore, ils pleurent, et leur talent meurt, encore ils meurent. Encore paré d'orgueil et d'inconscience, dans des cages immenses de silence, vous élevez des enfants pour la potence. Nous sommes en taux, en taux, en taux. Choisirons-nous d'être briques de parure et illusion, ou libre là sans raison? Perdre la conscience. la recherche des bras pour soigner l'inapaisé. Chaque jour porte son héros, je me laisse dévorer. Lui et moi jouant cette chimérique romance, un doux baiser comme antidote sur mes plaies. On se baigne dans des eaux si troubles, j'ai peur de me noyer. Sans la bouée du sortilège, mon cœur sonne le retrait. Lui et moi jouant cette chimérique. Ses bâtisses en pèlerin assoiffé, farfouillant au gré des souks la tendresse raffinée. Je collectionne des pierres précieuses flamboyantes à souhait, elles perdent de leur éclat sur l'autel du jour levé. Lui et moi jouant cette chimérique romance, un doux baiser comme antidote sur mes plaies. Lui et moi jouant cette chimérique romance, Je bois mes larmes ce soir, elle mange tes gestes et tes pas. Les restes de notre amour, tout disparaît dans le noir.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, donc après la voix charmeuse, Monique, Serge au micro, Nicolas n'est pas avec nous, il est en tournage, hein, il ne tourne pas sur lui-même, mais il y est pour son boulot, voilà, et je crois que lundi prochain il ne sera pas là non plus, mais on le reverra très bientôt. Voilà, alors comme d'habitude, une petite lecture rapide de la présentation de l'émission d'aujourd'hui, voilà, bon. Moi, je l'ai mis dans la rubrique lutte sociale, est-ce que ça te va, Pascal ?
Parfait,
voilà.
Parfait, lutte sociale.
Non, bah, c'est, on a ça tombe de rubrique, je pense que les auditeurs le savent. Et bon, j'ai mis dans la rubrique lutte sociale. Donc ce texte, d'ailleurs, vous pouvez le lire sur le site de Trou Noir, au fait Trou Noir Radio Libertaire, et vous avez accès à toutes nos émissions. Pour celle d'aujourd'hui, vous y aurez accès à partir de demain matin. Ben, c'est les petites mains de Monique qui va faire tout ce boulot. Voilà, donc rapidement. Hein. Le lycée autogène de Paris, donc LAP, est en grave danger. Le rectorat a engagé une procédure disciplinaire contre 4 enseignants, notamment pour méconnaissance du devoir d'obéissance, avec interdiction de se rendre au lycée, de rentrer en contact avec leurs collègues et les élèves. Mais c'est l'ensemble du fonctionnement du lycée qui est remis en cause, et le rectorat veut en imposer de nouvelles modalités à la prochaine rentrée en supprimant tous les aspects autogestionnaires. Bon, j'en ai cité quelques-uns, mais on va bien sûr rentrer plus en détail dans l'émission. Donc, gestion collective de ce qui concerne la vie d'établissement, pas de hiérarchie, de proviseur, de surveillant, de notes, de compétition, etc. Dès juin 2022, le rectorat avait refusé de renouveler la convention en vigueur depuis 2011, puis de prendre en compte les propositions des membres du LAP faites pendant l'année scolaire suivante. Donc le LAP, 42 ans d'existence quand même, et l'aboutissement de réflexions et d'échanges dans les années 1960 entre des enseignants acquis à la méthode Freinet et souhaitant la création de lycées aux antipodes du lycée Caserne. Citation de, je crois, de l'époque. Le lycée est un lieu qui fabrique des moutons ou des casseurs. On se soumet ou on explose. Parmi eux, deux professeurs de Saint-Nazaire, André Daniel et Gabi Cohn-Bendit, je pense le deuxième est un peu plus connu, ils obtiennent en 1982 d'Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale, la création de 4 établissements expérimentaux, dont le lycée expérimental de Saint-Nazaire et le LAP. C'est cette alternative pour enseignants ne supportant plus le système scolaire tel qu'il est et élèves revenus de tout sans être allés nulle part, là aussi je crois que c'est une citation de la période d'origine, que l'État donc veut faire disparaître. Donc notre invité Pascal, enseignant au LAP, va se présenter un peu plus en détail que cette petite phrase très courte. Bon, sans que tu fasses l'historique de tout ton itinéraire, je crois que tu as plus ou moins été dans Radio Libertaire il y a longtemps, non ?
Alors, assez longuement, le samedi matin, à l'époque philanthropie de l'ouvrier charpentier.
Et voilà, comme moi, j'étais dans les chroniques syndicales.
Juste après, on se croisait, voilà.
On se croisait.
On se croisait alors des croissants le samedi.
Tu peux nous parler plus particulièrement, en tout cas, comment tu as connu le LAP, comment tu as envie, d'y être enseignant, et puis depuis quand ?
Oui, puis ça nous permettra de parler de manière plus collective après sur l'histoire du LAP. Donc comme tu l'as rappelé, le LAP c'est le début des années 80, c'est 82 très exactement, on parlera aussi de Saint-Nazaire qui ouvre quelques mois auparavant, et dans les années 80-90 c'était quand même assez mythique d'avoir...